silence, je pense, nous invite à commencer cette conférence. Merci à tous de votre présence. On attend toujours un petit peu parce que il est parfois difficile de se garer juste autour de la librairie. Donc on laisse un peu de temps pour les personnes qui veulent assister à la conférence pour trouver une place pour parquer leur voiture. Voilà. Alors nous sommes ici donc dans le cycle protestant et la guerre, avec cette question comment justement le protestantisme s'est-il accommodé des guerres, quel a été son rapport avec la guerre. C'est vrai que souvent les protestants retiennent de leur lien avec la guerre uniquement deux choses, la guerre des Camisards, je dis dans l'imaginaire collectif, pour faire très court, la guerre des Camisards où les protestants sont victimes puisqu'ils luttent contre l'oppression et l'absolutisme royal, ce qui est tout à fait exact, mais ils ressortent, on pourrait dire, blanchis, ils ont un rôle positif. Et deuxième point retenu souvent dans l'histoire des rapports entre le protestantisme et la guerre, eh bien, c'est cette fois le XXe siècle, avec la période de la Seconde Guerre mondiale, où les protestants sont une majorité des justes, a donc contribué au sauvetage des Juifs, au péril de leur vie, au péril en tout cas de leur tranquillité ici en France. Dans les deux cas, les images sont positives, mais le but de ce cycle de conférences est de montrer que le lien entre le protestantisme et la guerre n'est pas toujours un lien justement positif, et que la question se pose: est-ce une alliance possible? Comment les protestants ont-ils pu s'accommoder de la guerre? Et la question qui nous interrogera ce soir, c'est justement le protestantisme confronté aux premières guerres coloniales, puisqu'il s'agit ici de l'Amérique avant les États-Unis. Je reprends le titre du livre de Bertrand von Rumbeck, où justement il expose, il reprend toute cette question, notamment cette question, comment justement les Anglais, puis les Allemands, puis les Écossais qui sont venus s'installer dans l'Amérique du Nord ont été confrontés aux premières escarmouches, aux premières relations avec les Indiens. Alors c'est une question très peu traitée en littérature française, y compris par les historiens français. C'est une question aussi très peu traitée, par exemple, dans le monde du cinéma. On connaît, pour ce qui est des États-Unis, le monde des cow-boys, la guerre de sécession, mais il y a très peu de films faits sur les premiers temps de l'Amérique avant les États-Unis. Il y a le film de Walt Disney, Pocahontas, dont Bertrand von Rumbeck peut-être nous reparlera. Et puis il y a un monde nouveau qui.
Pocahontas, non pas de Walt Disney.
Et le film aussi Un Nouveau Monde, un film qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui parle aussi de cette période, mais au fond très peu de films sur cette période de l'histoire de l'Amérique. Voilà, donc on est très heureux ce soir de recevoir Bertrand von Rumbeck, qui est un spécialiste de la question. Merci à lui d'avoir accepté notre invitation. Et puis on va lui laisser tout de suite la parole. 45 minutes à peu près d'intervention, et puis après quoi vous pourrez rebondir, interroger, faire des remarques, et nous pourrons ensemble débattre sur cette question donc du protestantisme à l'épreuve des guerres coloniales. Je rappelle aussi que c'est une question historiographique, notamment pour le 19e siècle. Et cette fois en dehors du champ américain, comment justement l'Angleterre anglicane a été un modèle d'implantation coloniale différent du modèle d'implantation français ou italien, du modèle d'implantation latin, notamment par exemple en Afrique noire ou même en Afrique du Nord. Voilà, donc c'est une question qui a été résurgente au cours des siècles. Je laisse tout de suite la parole à Bertrand von Rumbeck pour nous enseigner sur ce sujet.
On y est arrivé.
Voilà. Bien, merci. Merci pour cette invitation. Merci d'être venus nombreux pour m'écouter. J'en suis ravi. Alors, mon très cher ami Bernard Cotteret, qui est aussi un de mes anciens professeurs, m'avait toujours dit tu devrais venir à la librairie Jean Calvin d'Alès. Maintenant, c'est fait. Merci pour cette invitation. Parce que je sais que lui vient régulièrement et il en est toujours très content. Et donc, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord quelques mots sur le livre et puis ensuite de revenir plus précisément sur cette question, ce qu'on pourrait appeler protestantisme des guerres indiennes. Alors, à l'origine, le titre que j'avais en tête, c'était « Aux origines des États-Unis ». Parce que mon idée, c'était de... Parce que l'éditeur, bon, voulait absolument le mot « États-Unis » dans le titre. Et mon idée, c'était justement d'écrire un livre qui raconte les origines de ce pays. Puis, j'ai eu l'idée de l'Amérique avant les États-Unis. Parce qu'en fait, la première difficulté, c'est que c'est un livre qui porte sur un espace avant de porter sur un pays. Un espace qui va de, disons, de la Floride à Terre-Neuve, c'est-à-dire toute la côte atlantique des États-Unis et une partie de celle du Canada. Donc les divisions politiques États-Unis-Canada, bien sûr, n'ont pas de sens pour cette période, puisque même s'il y a une zone française et une zone espagnole et une zone anglaise. Ensuite, il faut savoir qu'au moment... disons à la veille de la Révolution américaine, donc en 1763, les Anglais contrôlent 18 colonies sur le continent et quelques-unes aux Antilles, 25 en tout. Or, 13 deviendront les États-Unis. Donc une question difficile à laquelle je m'efforce de répondre dans ce livre, c'est pourquoi ces 13 colonies sont devenues un pays. Pourquoi 13, pas 14, 15, 16, 17, etc. Donc ce livre porte d'abord sur un espace, ensuite sur un type de colonisation qui est anglaise. Alors, une autre difficulté, c'est qu'on parle de colonisation anglaise jusqu'en 1707, mais en 1707, avec l'acte d'union entre l'Écosse et l'Angleterre, et d'ailleurs, le fait qu'il va bientôt y avoir un référendum en Écosse est très important dans l'histoire britannique et même anglo-américaine, parce que justement, elle remet en question cet acte d'union de 1707. Mais pour revenir à l'Amérique, à partir de 1707, l'Amérique est britannique, puisque l'Amérique s'ouvre aux Écossais. Alors qu'avant, pour que les Écossais partent en Amérique, il faut qu'ils demandent la permission aux Anglais, en fait. Donc il y a cette différence. Hein. Moi, personnellement, je suis de formation angliciste, donc j'ai été habitué à ne pas confondre un Gallois avec un Anglais, avec un Irlandais, avec un Écossais, etc. Mais souvent en France, pour eux, d'ailleurs, j'aime peu le terme anglo-saxon, qui n'a pas beaucoup de sens. Je lui préfère anglo-américain. Et en tout cas, dans les mondes anglophones, sans parler de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc., mais les mondes anglophones sont extrêmement divers. Et cette diversité va être une des caractéristiques fondamentales de l'Amérique anglaise, et j'y reviendrai. Est très importante pour notre sujet, justement, parce que chaque groupe protestant va avoir une attitude différente vis-à-vis des Amérindiens. Alors, ce que je voudrais faire, c'est d'abord exposer en toile de fond quelques caractéristiques générales sur l'Amérique anglaise, parce qu'au-delà de la diversité, on peut et on est obligé, sinon ça n'aurait pas, on ne pourrait pas donner du sens à cette histoire, de dresser quand même quelques caractéristiques, mais en sachant qu'il y a de multiples exceptions pour chaque caractéristique. Alors la première, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit que cette Amérique est fondée sur un temps long. Donc l'espace et le temps sont des paramètres fondamentaux pour comprendre l'histoire américaine de cette période. L'espace, parce que de la Floride au Maine, si on prend juste les frontières actuelles des États-Unis, il y a 2000 km, et temps, parce que entre la première colonie a été fondée en 1607, c'est la Virginie, et la dernière en 1732. Donc vous avez plus d'un siècle d'histoire anglaise puis britannique entre la fondation de la première colonie et de la dernière. Et forcément, l'Angleterre de 1607 ne ressemble pas à l'Angleterre de 1707. Pardon, 1732. Autre caractéristique, c'est une diversité géographique. Qui va impliquer des différences de climat, différentes agricultures, peuplements différents. Parce que si vous prenez par exemple la Géorgie et la Caroline du Sud, vous êtes dans un climat subtropical où on va faire du riz, on va importer énormément d'esclaves. Si vous prenez le Maine, on est dans un climat totalement différent, ça va être des villages de pêcheurs. Donc, ces Amériques, parce qu'il faut vraiment employer pluriel, ces Amériques, un jour, vont se retrouver dans le même pays. Et puis, il y a la distance. Des milliers de kilomètres séparent la Géorgie de la Pennsylvanie, par exemple. Des kilomètres qu'on ne va absolument pas parcourir par terre, mais par mer. Hein. Les colons en Amérique ont des liens maritimes, non terrestres. D'ailleurs, ce qui va impliquer une certaine insularité. Moi, dans mon introduction, je parle de l'archipel américain. C'est-à-dire, ces colonies vont former une insularité parce qu'elles regardent toutes du côté de Londres. Et au moment de la guerre de 7 ans, sur laquelle je reviendrai, c'est-à-dire un conflit décisif de la milieu du 18e siècle, qui va décider que l'Angleterre, la Grande-Bretagne va dominer l'Amérique du Nord, puisque les Français vont être défaits pendant cette guerre, pendant ce conflit. Eh bien, au début du conflit, les observateurs pensent que les Français, qui pourtant ne sont que 100 000 contre presque 2 millions de Britanniques, donc un rapport démographique qui n'a rien à voir, les observateurs pensent que les Français vont gagner parce que les Anglais sont désunis, les Britanniques sont désunis. Et c'est vrai que, par exemple, si au début du conflit, lorsque la Virginie est attaquée par des troupes franco-amérindiennes, elle demande l'appui d'une colonie voisine qui le lui refuse. Donc au début, dans les années 1750, au début du conflit, les Britanniques sont très divisés. Il y a même un pasteur anglican qui parcourt les colonies à ce moment-là et qui dit « si on laisse les Américains ensemble, il y aura une guerre civile ». Il n'avait pas tout à fait tort, sauf que la guerre civile a eu lieu bien plus tard. Mais il y a donc cette diversité est une notion très importante, un paramètre essentiel pour comprendre cette Amérique. Et enfin, dernière caractéristique, c'est que cette Amérique, à l'inverse de l'Amérique française, est une Amérique océanique et non pas continentale. Parce que les Anglais, c'est ce qu'on appelle en anglais « the blue water policy », c'est-à-dire que les Anglais veulent construire un empire maritime avec des colonies de peuplement, bien sûr, pas seulement des comptoirs, mais le centre de gravité de cette Amérique n'est pas en Amérique du Nord. Le centre de gravité de cette Amérique est quelque part au milieu de l'Atlantique, puisqu'il y a aussi les Antilles, l'Amérique du Nord et l'Irlande, qui est aussi une colonie britannique. Enfin, quelques tendances sur deux siècles, parce que ce livre commence en 1497, donc avec John Cabot ou Giovanni Caboto, qui était, comme de nombreux Italiens, ont travaillé pour des couronnes françaises ou anglaises. Et ce John Cabot, c'est le point de départ de l'expansion anglaise dans l'océan Atlantique, puisqu'il va découvrir, entre guillemets, Terre-Neuve. Mais, en fait, la machine anglaise va se mettre en route qu'au milieu du XVIe siècle. Mais quand même, des années 1560 à 1776, vous avez deux siècles d'histoire. On l'oublie souvent, on dit toujours les Américains ont une histoire courte. C'est vrai, bien sûr. Ils n'ont pas de Moyen Âge, ni d'Antiquité, pour les Euro-Américains, bien sûr. Mais il faut quand même savoir qu'il y a plus de deux siècles avant 1776, avant la Révolution américaine, les Américains sont là depuis, ils ont déjà deux siècles d'histoire. D'ailleurs, c'est un élément très important pendant la Révolution américaine, parce que quand des gens comme Jefferson et Washington ou d'autres ou Dickinson vont écrire des pamphlets pour défendre la cause américaine, la première chose qu'ils vont mettre en avant, c'est qu'ils ont des assemblées depuis le début du XVIIe siècle. Donc, ils sont pas nés de la dernière pluie, si vous voulez, pour parler familièrement, vis-à-vis des Britanniques. Ils ont aussi des arguments, ils ont aussi des traditions, de l'ancienneté. Et enfin, dernière caractéristique, il s'agit d'une colonisation par délégation. C'est ce qu'on appelle dans l'historiographie anglo-américaine, on parle de « salutary neglect », donc « négligence salutaire », qui veut dire que Londres s'est pas ou peu occupé de ses colonies pendant très longtemps, pendant plus d'un siècle, et ça a profité aux colonies justement, parce qu'ils ont pu créer des sociétés assez autonome par rapport au pouvoir métropolitain. Alors, protestantisme et guerre. Alors, je commencerai par voir d'abord la géographie des protestantismes britanniques en Amérique du Nord, enfin, anglais puis britannique, tout en gardant à l'esprit que dans cette diversité, vous avez quand même des catholiques, dans le Maryland principalement, au début du XVIIe siècle, et vous avez aussi des juifs séfarades à New York, aussi pendant sa période hollandaise, hein, puisque New York s'appelait avant la Nouvelle-Néerlande et la ville de New York s'appelait la New Amsterdam et a été conquise par les Anglais en 1664 pendant l'une des trois guerres anglo-hollandaises. Donc, quelle est cette géographie ? Géographie et ethnicité. Parce que quand on parle des protestantismes dans l'Amérique anglaise, il faut garder ces deux notions, géographie, ethnicité. Parce qu'il n'y a pas que... Alors déjà, les Britanniques sont très divers entre eux, mais en plus, il y a bien sûr des Français, des protestants français, il y a aussi des protestants hollandais, et il y a beaucoup d'Allemands. Oui, alors... peut-être pas celle-ci. Mais j'ai quelques cartes pour que vous puissiez situer les colonies, parce que tout le monde n'a pas...
Il n'y aura pas assez pour tout le monde, parce que la photocopieuse est défectueuse. Mais peut-être une pour 5, 6, une par rangée, peut-être. Comme ça, vous aurez un peu une idée déjà de...
Alors, donc je disais deux paramètres importants, la géographie, l'ethnicité, et aussi l'histoire propre à chaque colonie. Parce qu'il faut toujours garder à l'esprit, quand on parle de l'Amérique anglaise, que chaque colonie a son histoire. L'histoire de la Virginie n'est pas l'histoire du Massachusetts. Même dans une même région, l'histoire du Rhode Island, puisqu'on parle de Roger Williams, l'histoire du Rhode Island est différente de l'histoire du Massachusetts. Il y a un socle commun, bien sûr, mais chaque colonie a son histoire. C'est à garder à l'esprit. Et la boutade de Voltaire, qui a écrit qu'en Angleterre, chacun accède au paradis par le chemin qui lui plaît, et vérifiable, hein, c'est une réalité, hein, en Amérique, encore plus qu'en Angleterre. Si on dresse un panorama rapide, vous avez l'église anglicane, vous avez les presbytériens qui peuvent être écossais ou anglais, vous avez les Quakers, très important, hein, groupe très important en Amérique, les congrégationalistes qui sont le terme technique, si vous voulez, des puritains, vous avez les baptistes, vous avez les luthériens allemands, vous avez les calvinistes qui peuvent être hollandais, français, suisse ou allemand. Vous avez beaucoup de sectes allemandes. Les Amish sont les plus connus. Il y a eu un film sur eux avec Harrison Ford il y a une décennie. Les frères Moraves sont aussi très présents en Amérique. Et comme j'ai dit, les catholiques et des juifs séfarades. Pensez, les catholiques. Au Maryland, en 1632, vous avez des jésuites anglais. On n'imagine pas dans l'Amérique anglophone. Hein. Autre caractéristique importante, c'est que bien qu'il y ait des groupes, des blocs géographiques d'églises, hein, sur lesquels je reviendrai, aspect très important, c'est que toute église peut se retrouver dans toute colonie. Par exemple, les puritains, les congrégationalistes, sont nombreux au Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre. Mais vous pouvez aussi les retrouver en Virginie. Les Quakers sont leur bastion, c'est la Pennsylvanie, qui a appartenu à William Penn, le plus illustre des Quakers de l'époque. Pourtant, vous avez des Quakers en Caroline du Sud. Donc, vous voyez, vous avez ces blocs, mais toujours en Amérique, ces exceptions. Hein. Vous avez aussi des puritains partout, des Quakers partout, etc. Les Quakers, par exemple, sont très nombreux au Maryland, alors que le Maryland, au départ, est une colonie catholique. Mais au-delà, parce que encore une fois, au-delà, un des défis de l'Amérique, des études américaines, si vous voulez, c'est de toujours transcender la diversité. Parce que si vous regardez les États-Unis et vous regardez les exceptions, c'est infini, même de nos jours, et surtout, j'ai envie de dire surtout de nos jours. Donc, il faut essayer, un des défis, c'est d'essayer quand même de tirer des caractéristiques. Alors, la géographie, quelle est la géographie du protestantisme ou des protestantismes dans cette Amérique anglaise? D'abord, vous avez quatre églises dominantes. Vous avez l'église anglicane, l'église presbytérienne, les congrégationalistes et les Quakers. Ça, c'est les quatre grandes églises du 18e. Elles sont déjà présentes au 17e, sauf peut-être l'église presbytérienne. Dominante, qu'entend-on par dominante? Au nombre de paroisses, nombre de pasteurs, lieu de culte, nombre de fidèles. Elles écrasent toutes les autres. Donc, il y a des blocs régionaux avec ces églises. Prenons les anglicans. Les anglicans sont principalement dans les colonies du Sud. La Virginie et la Caroline du Sud sont les deux grands bastions de l'anglicanisme. Et un peu aussi marginalement New York. L'église anglicane fonctionne avec des paroisses. C'est très important parce que ces paroisses sont dominées par des conseils qu'on appelle en anglais vestries, ou en singulier vestry avec un Y. Et les membres de ces vestries sont appelés vestrymen. Et pourquoi est-ce important? Parce que l'élite, qu'on appelle l'élite créole, c'est-à-dire née en Amérique, par opposition à l'élite métropolitaine, l'élite créole va dominer ces paroisses. C'est les mêmes personnes que vous allez retrouver au conseil de paroisse, à l'assemblée de la colonie, ou au conseil de la colonie, ou qui va être aussi shérif, ou juge de paix, enfin toutes les fonctions diverses qu'on retrouve dans cette Amérique britannique. Donc, cette église anglicane, qui n'a pas d'évêque, il n'y a pas d'évêque dans les colonies, à l'inverse de l'église catholique en Amérique française, où il y a au moins un évêque, même si le diocèse est immense, parce que c'est toute l'Amérique du Nord, sauf la côte. À l'inverse de l'Amérique espagnole, où vous avez des évêques et des archevêques, dès le XVIIe siècle. En Amérique anglaise, l'église anglicane, ça c'est un point très important, parce que l'église anglicane va se laïciser d'une certaine manière en Amérique. Ce qu'on appelle l'anglicanisme colonial est très différent de l'anglicanisme de métropole. Il n'y a pas toutes les strates hiérarchiques que l'on trouve dans l'église anglicane. Donc il n'y a pas d'évêque. C'est l'évêque de Londres qui a cet immense diocèse. Et l'évêque de Londres va envoyer des représentants qu'on appelle des commissaires, commissaries, et ces commissaires vont être pas dans toutes les colonies, d'une part, et d'autre part, ils vont avoir peu de pouvoir. Donc, en fait, on a une église anglicane qui est très, comme les Anglais disent, « low church », et contrôlée aussi par un fort élément laïque, parce que c'est le gouverneur de la colonie, là où l'église anglicane domine, c'est le gouverneur de la colonie qui la contrôle, l'église. Alors, un paramètre très important dans l'Amérique anglaise, c'est la notion d'église établie. En anglais, « established church ». L'église établie, c'est l'église qui, avec l'appui du pouvoir politique local, je vous rappelle que toutes les colonies, à l'inverse de l'Amérique espagnole, de l'Amérique française, toutes les colonies ont leur assemblée dès le début. Donc, l'église qui a obtenu l'appui politique local est devenue l'église établie. Donc, elle vit des impôts, elle bénéficie des impôts locaux et qu'elle va utiliser pour recruter des pasteurs, pour construire des églises. Donc, elle a un ascendant extraordinaire local. Donc, ces lois, ce qu'on appelle les lois d'établissement, c'est-à-dire pour établir une église, il va falloir une loi. Ces lois d'établissement sont votées dans les assemblées coloniales et résultent de dures batailles. Parce que l'Amérique est quand même la terre de la dissidence. Je vais y revenir, mais tous les dissidents britanniques se retrouvent en Amérique. Et ces lois vont être, comme je disais, vont résulter de batailles politiques, de marchandages, de négociations, etc., pour avoir une église établie. Alors, autre caractéristique tout à fait étonnante au regard de ce qui se passe en métropole et aussi étonnante au regard de ce qui se passe dans l'Amérique française et l'Amérique espagnole, c'est, ou portugaise, c'est que l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, qui est quand même l'Église du souverain, dans certaines colonies, elle n'est même pas tolérée. On prend le Massachusetts, l'Église établie au Massachusetts, c'est l'Église congrégationaliste. Les anglicans n'ont pas le droit d'avoir de lieu de culte dans cette colonie au XVIIe siècle. Donc, situation tout à fait particulière qui va bien sûr profondément fâcher l'Angleterre, mais j'y reviendrai. Ce qui m'amène à un autre paramètre, c'est qu'il ne faut pas suivre Voltaire quand, dans 1760, il vous décrit l'Amérique comme une terre de tolérance. Il y a des colonies où il y a une très grande tolérance, j'y reviendrai, c'est la Pennsylvanie et le Rhode Island, pour des raisons différentes d'ailleurs. Mais dans beaucoup de colonies, il y a tolérance zéro, hein, comme on dirait de nos jours. Au Massachusetts, on pend les Quakers au XVIIe siècle. On les bannit d'abord, s'ils reviennent, on les pend. Donc, cette église anglicane va vivre un renouveau au début du XVIIIe siècle, où on va construire des églises, on va envoyer de nombreux pasteurs, on va vraiment conquérir des fidèles aux autres églises, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit les luttes entre les églises anglaises et britanniques. Les anglicans se battent contre les Quakers. Les puritains se battent contre les Quakers. Il n'y a que les Quakers qui ne se battent pas parce qu'ils sont pacifistes, les pauvres. Ils sont souvent victimes. Mais les autres les détestent. Et les puritains, les anglicans, ne s'aiment pas non plus. Donc, il va y avoir un renouveau dans ce combat anglican, pour que l'Amérique cesse d'être cette exception qui devient de plus en plus intolérable pour les autorités métropolitaines, jusqu'au réveil. Un autre aspect très important de l'histoire anglo-britannique, hein, parce que ce n'est pas un phénomène uniquement américain, phénomène de réveil, nouvelle spiritualité, et une des conséquences de ce réveil, le premier, il y en a deux très importants dans l'histoire américaine, c'est 1730-1740 et un siècle plus tard, 1840. Et le premier grand réveil, donc des premières moitiés du XVIIIe siècle, va avoir des conséquences sur les églises, parce qu'il va scinder les églises en deux. Il va y avoir ceux qui sont partisans du réveil et ceux qui sont contre. Et je vous en parle parce que l'élan, le combat anglican, le renouveau anglican du XVIIIe va se casser avec le réveil des années 1730. Où là, le réveil va complètement changer le paysage religieux de l'Amérique. Autre grande église, c'est les congrégationalistes, bien sûr. Donc, c'est ceux qu'on appelle les puritains, pour simplifier. Ils sont en Nouvelle-Angleterre, Massachusetts, Connecticut, New Hampshire. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont arrivés dans la grande migration puritaine des années 1630. Phénomène tout à fait particulier pour l'Amérique. Vous avez une migration souche dans les années 1630, qui va donner naissance à des colonies. Alors qu'ailleurs, vous avez, surtout en Virginie, vous avez un renouveau, un afflux continuel de migrants. Pas en Nouvelle-Angleterre. Jusqu'aux années 1720, sur près d'un siècle, vous allez avoir la même population, en fait, sans avoir d'arrivée de migrants. C'est plus tard, au XVIIIe, ça va se diversifier avec l'arrivée des Irlando-Écossais. Donc, les congrégationalistes, on les appelle comme ça, en anglais « congregation », parce que ce sont les églises sont autonomes. Donc, c'est lié, là tout est imbriqué, la religion et le système politique, c'est lié à l'occupation du territoire. Alors qu'en Virginie, vous avez une occupation de plantations, hein, puisqu'on cultive du tabac, en Caroline c'est du riz, donc dans le sud vous avez ces plantations, donc une occupation du territoire très dispersée. En Nouvelle-Angleterre, ça va être des villages qu'on appelle en anglais « town ». Le « town meeting », c'est une notion politique et institutionnelle très importante dans l'histoire américaine, y compris de nos jours. Bill Clinton, dans les années 90, il organisait des « town meetings ». Et il a repris ce terme de l'Amérique puritaine du XVIIe siècle. Donc, il faut garder à l'esprit, pour les puritains ou congrégationalistes, c'est qu'au départ, c'est un courant de l'Église anglicane. Au XVIe siècle, ils sont dans l'Église anglicane. Mais petit à petit, à partir de 1620-1630, ils vont se détacher, ils vont passer dans la dissidence, si vous voulez, par rapport à l'Église anglicane, surtout sous l'époque de l'archevêque Laud, William Laud, dans les années 1620-1630. Et c'est là qu'il va y avoir la migration vers l'Amérique. Et les puritains qui partent en Amérique, eux, sont complètement détachés même du puritanisme anglais. Ils vont créer ce qu'on appelle le New England Way, c'est-à-dire la manière de Nouvelle-Angleterre, qui va être une nouvelle théologie centrée sur l'idée d'alliance, en anglais, covenant. Et là, encore une fois, où tout est imbriqué, c'est que ce qui rend le modèle puritain si homogène de l'extérieur, c'est précisément le fait que ces migrants sont arrivés, un, tous ensemble au début, deux, ils venaient de la même région d'Angleterre qu'on appelle East Anglia, qui est au nord-est de Londres. Donc, ils se retrouvaient entre... Ils se connaissaient avant la migration, en fait, pratiquement, hein, comme on peut se connaître d'un village à l'autre. Et, dernière chose, en Amérique, ils vont fonder ce qu'ils appellent la cité sur la colline, en anglais « city upon the hill ». La cité sur la colline, c'est leur modèle religieux et sociétal, un modèle pour qui ? Pour l'Angleterre, précisément. Qu'ils espèrent, si vous voulez, influencer la vie religieuse et institutionnelle anglaise en créant un modèle. Et pourquoi sont-ils intolérants ? Ils sont intolérants précisément parce qu'ils ont créé ce modèle et ils ne peuvent accepter aucune menace, soit-elle ou fût-elle interne ou externe. Donc, ceux qui sont contre ce modèle vont être bannis. Là joue le rôle très important de l'espace en Amérique. On peut bannir un peu plus loin, en général vers l'ouest. Bon, dans le cas présent, c'est vers le sud, puisque c'est Roger Williams qui est banni du Massachusetts, donc il va dans le sud et il fonde le Rhode Island. Mais il y a de l'espace, à condition qu'on le prenne aux Amérindiens, bien sûr. Il y a de l'espace et on peut créer une nouvelle colonie. D'ailleurs, la particularité du Rhode Island, c'est qu'on crée la colonie avant d'obtenir la charte. Ils créent la colonie et plus tard, ils négocient avec la couronne et ils obtiennent une charte. Donc, si les puritains sont intolérants, c'est parce qu'ils souhaitent défendre leur modèle. Autre groupe, les Quakers. Alors, nous avons ici une grande spécialiste des Quakers, mais les Quakers, il faut garder à l'esprit qu'ils arrivent en Amérique dès le milieu du XVIIe siècle. Ils vont à la Barbade, ils vont dans le Massachusetts, où on l'a vu, ils sont bannis, puis pendus. Ils vont aussi à New York, enfin à Nouvelle-Néerlande, à Nouvelle-Amsterdam, si vous voulez. D'ailleurs, c'est très drôle, parce qu'il y a un commentaire d'un pasteur réformé hollandais dans une île qui est immense et qui est devant New York, qu'on appelle Long Island, qui explique qu'il a vu des gens crier dans la rue. Il a cru qu'il y avait un incendie, qu'il y avait quelque chose, une attaque indienne ou un incendie. Et en fait, non, c'était des Quakers qui prêchaient dans la rue. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne les connaissait pas du tout, non seulement les Quakers, mais leurs pratiques. Et d'ailleurs, ils vont être rapidement bannis parce qu'ils dérangent. Alors, les Quakers, ils s'installent dans le West Jersey, parce que c'est un peu compliqué, mais au début, New Jersey, c'était West Jersey et East Jersey, puis après, ça a été rassemblé pour faire le New Jersey qu'on connaît actuellement. Et ils s'installent principalement en Pennsylvanie. Et ça, c'est une des grandes particularités de l'Amérique anglaise, c'est qu'on va donner un territoire immense à des dissidents qui sont méprisés par les autorités anglaises en métropole. Les Quakers, c'est 50 000 personnes sur 5 millions d'habitants, c'est donc une tout petit groupe. C'est comme si vous voulez, on avait donné la Louisiane aux Huguenots. Pourquoi pas ? Moi, j'aurais bien aimé en tant qu'historien. Mais c'est tout à fait impensable pour l'Amérique française. Au contraire, on exclut les protestants, comme vous savez, de la Nouvelle-France à partir de 1627. Là, on va leur donner une colonie. En plus, une des plus grandes colonies qui soit. Et pour comprendre ça, il faut regarder à la loupe l'histoire anglaise des années 1680. Que se passe-t-il? Vous avez un roi, Jacques II, qui est catholique. Pardon, il n'est pas encore roi, il est frère du roi, excusez-moi. Le roi, c'est Charles II. Jacques, Duke of York, futur Jacques II, est catholique. Donc, il y a un mouvement en Angleterre, qu'on pourrait appeler un mouvement politique, si vous voulez, au Parlement, dans la noblesse aussi, pour exclure ce Jacques de la succession. Hein? C'est ce qu'on appelle la crise de l'exclusion dans les années 1680. À ce moment-là, ce Jacques va avoir besoin d'un appui politique, d'une grande figure. Il va choisir William Penn. Pourquoi William Penn? Parce que c'est le fils d'une grande famille noble anglaise, mais aussi parce qu'il est quaker, donc il est à la marge, il n'est pas anglican, mais il est protestant. Donc il est un peu plus proche du centre que Jacques, en tant que catholique. Et donc, alors bien sûr, je simplifie, mais pour le remercier de son soutien politique, il va lui donner une colonie. Alors aussi le fait que le père de William Penn s'était énormément endetté, qui était un amiral, s'était énormément endetté pour la cause Stuart pendant la révolution anglaise hein, des années 1640. Et donc, le pouvoir, la monarchie est très endettée. Et une façon d'effacer l'ardoise, c'est de donner des terres en Amérique. Ça, c'est gratuit. Bien. Donc, William Penn obtient la Pennsylvanie. Cet illustre Guillaume Penn, comme dira Voltaire dans les années 1730. Et c'est doublement une chance pour ce William Penn, parce qu'à l'époque, l'Angleterre essaye de reconquérir les colonies qu'elle a données à ce qu'on appelle des seigneurs propriétaires, c'est-à-dire des familles ou des aristocrates. Il y a une tentative de reprise en main à la fin du XVIIe siècle où on regrette, en fait, d'avoir donné ces territoires à des propriétaires, parce qu'on les a donnés à des propriétaires, à des seigneurs, mais ça ne fait pas partie de l'Empire, d'une certaine manière, puisqu'on ne contrôle pas, puisque si on donne la colonie à un propriétaire, c'est lui qui décide de tout. Quelle religion va être établie, est-ce qu'on va fonder une assemblée ou pas, où on va construire des ports. Si vous êtes propriétaire d'une colonie, vous décidez de tout. Donc, en fait, la Pennsylvanie, c'est vraiment un concours de circonstances. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Pennsylvanie, donc Quaker, va devenir une des colonies les plus prospères en un demi-siècle. Philadelphie et la Pennsylvanie vivent une prospérité, une croissance démographique et économique tout à fait étonnante. Parce que à la veille de la Révolution américaine, Philadelphie, la deuxième ville de l'Empire britannique après Londres, elle a dépassé toutes les villes anglaises, autres que Londres. Et la particulière des Quakers... Alors, pourquoi les Quakers sont détestés? On pourrait dire parce qu'ils sont riches. Parce que même s'ils sont vêtus de manière très sobre, les marchands Quakers qui font de la Pennsylvanie sont très doués pour les affaires, ils gagnent beaucoup d'argent, et c'est pour ça, bien sûr, que ça bénéficie à la Pennsylvanie et à la Philadelphie. Mais ce n'est pas pour cette raison. Ils sont pacifistes, donc très important pour les relations avec les Amérindiens. Ils ne prêtent pas serment. Ils tutoient. Hein, ils utilisent le « thou » au lieu du « you ». Ils conservent leur couvre-chef, etc., etc. Et ils sont tolérants. C'est pour ça qu'il y a deux grandes utopies à l'Amérique du XVIIe siècle qui sont l'utopie puritaine au Massachusetts et au Connecticut et l'utopie Quaker en Pennsylvanie. Or, ces deux grandes utopies religieuses du XVIIe sont vraiment opposées. Intolérants chez les puritains, très tolérants au contraire chez les Quakers. La Pennsylvanie devient vraiment un sanctuaire d'église, si vous voulez. Parce que tout le monde est toléré. On est quand même en 1680, hein, à 5 ans de la révocation des d'Édith de Nantes, quand même. Les presbytériens, autre grande, donc quatrième grande église, le plus souvent, ils sont écossais. Ils sont installés, leur centre névralgique, c'est le New Jersey, donc au sud de New York. Je vous rappelle qu'avec l'acte d'union de 1707, les Écossais peuvent enfin partir en Amérique et fonder des colonies. et même jouer un rôle. C'est souvent minoré, c'est dommage, mais les Écossais ont joué un grand rôle dans l'administration de l'Empire. Et plus tard, vous avez les Scots-Irish, c'est-à-dire les descendants protestants, mais irlandais. On les appelle aussi les Écossais d'Ulster, qui sont des descendants des Écossais qui se sont installés dans l'Irlande du Nord au XVIIe siècle. Ils arrivent en Amérique un siècle plus tard. Et ils s'installent, ces Scots-Irish, s'installent dans ce qu'on appelle la frontière, c'est-à-dire la frange occidentale des colonies, hein, les Appalaches, si vous voulez. Mais ils arrivent un peu plus tard, hein, ils arrivent un siècle après les Puritains, puisqu'ils arrivent à partir de 1720. Alors, les guerres amérindiennes, alors, ou plus largement les relations avec les Amérindiens, une fois qu'on a en tête ce kaléidoscope, hein, de groupes, de régions. Alors, d'abord, première chose à dire, c'est que très souvent, vous avez des escarmouches très localisées, un peu partout, mais vous n'avez que quelques conflits sur lesquels je reviendrai. Mais il est important de garder à l'esprit qu'il ne faut pas voir uniformément une période de contact faite de guerre et d'hostilité. Hein. Les périodes varient. Hein. Il y a des moments de paix, des moments de guerre. Il y a beaucoup de paramètres. Par exemple, le rapport de force sur place. Est-ce qu'il y a une nation amérindienne qui domine ? Est-ce qu'il y a des conflits ancestraux entre nations amérindiennes, et les Européens pourraient en profiter? Est-ce qu'ils sont puissants, les Amérindiens? Est-ce que c'est ce qu'appelaient les Français les petites nations qui sont sur la côte, ou alors les empires comme les Creeks, les Cherokees, les Iroquois? L'Angleterre, comme la France, comme l'Espagne, ne peuvent pas les combattre. Ils sont trop puissants, trop nombreux, trop puissants. Donc il faut garder en tête tous ces paramètres et bien sûr le paramètre religieux. C'est évident que si les colons sont des Quakers, ils sont pacifistes, il n'y aura pas de guerre. Donc si c'est des Anglicans, ils essaieront au contraire de les intégrer dans l'Empire britannique parce que c'est la religion du roi. Donc vous voyez, tout ça c'est assez complexe. Alors je voudrais passer en revue les quatre grandes guerres amérindiennes, voir un peu pourquoi et ensuite parler de la politique de conversion, parce que je crois que c'est un aspect de l'histoire d'Amérique anglaise qu'on a laissé de côté pendant longtemps. Alors, le premier conflit... Excusez-moi, avant de commencer, je voudrais dire, pour simplifier, que au début, les Anglais, tout comme les Français, tout comme les Espagnols, souhaitent convertir les Amérindiens, mais il va y avoir un moment de césure lorsque la colonisation va devenir massive. Et là, il y a un problème de terre, ça va amener des guerres, et l'élan de conversion va se briser. Ça, c'est l'idée que je défends dans mon livre. Alors, ces guerres, vous avez les guerres anglo-poatanes. Les poatanes, c'est une confédération d'Amérindiens en Virginie. Le chef poatan, que les Anglais appellent poatan, est le père de Pocahontas, mais il a au moins 50 filles, hein, c'est pas sa seule fille. Comme ça permet de relativiser. Et Powhatan, quand les Anglais arrivent, Powhatan, il est au fait de sa puissance. Il a une quinzaine de nations qui dominent et il place ses frères, sœurs au pouvoir dans ces nations. Donc, quand les Anglais arrivent, lui, il va penser les vassaliser. Pour eux, les Anglais vont être James Fort au début, mais ensuite ça s'appelle Jamestown. Jamestown va être un village. Pour lui, c'est un village. Et il va essayer de les intégrer dans sa confédération. Parce qu'il a quand même... Il est puissant, il a une certaine puissance quand même. Les Anglais sont très peu nombreux au départ. Et puis, ils meurent comme des mouches. Et ensuite, il a des diplomates. Il y a un livre récemment qui a été écrit sur la diplomatie poatane qui montre combien elle est sophistiquée. Mais, alors donc Pocahontas, quelques mots sur Pocahontas. Pocahontas joue, au-delà de Walt Disney, Pocahontas était une petite fille, hein, elle a 12-13 ans. Elle ne tombe pas amoureuse du Captain Smith, mais de John Rolfe, qui est un autre colon qui, lui, a introduit le tabac en Virginie. Mais surtout, elle est amoureuse des Anglais. Parce que ce qui est vrai, c'est que cette jeune fille est intriguée par cette nouvelle tribu, cette nouvelle nation, et elle va leur apporter de la nourriture, du maïs, de la viande, etc. Et elle va servir de ce qu'on appelle de truchement, d'intermédiaire culturel entre les Powhatans et les Anglais. Mais elle va être, à un moment donné, elle va être kidnappée par les Anglais, qui vont vouloir s'en servir. Ils vont la convertir, elle va devenir Lady Rebecca, et elle va épouser John Rolfe, donc un colon relativement important, puisqu'il a introduit, comme je vous disais, le tabac, enfin une variété de tabac qui va prospérer en Virginie, et plus tard dans le Maryland. Et elle va avoir un fils avec lui, Thomas Rolfe, et c'est ce fils qui permet maintenant à des Américains de dire « je descends de Pocahontas », parce que vous en rencontrez, si vous y allez, vous allez en rencontrer, c'est sûr. Et c'est grâce à ce Thomas. Et elle va partir en Angleterre. Elle va aller être présentée à la cour du roi Jacques Ier. Mais elle va mourir en Angleterre de maladie. Donc, Pocahontas, si vous voulez, joue quand même un rôle important dans cette histoire, dans cette première histoire de la Virginie. Bien sûr, c'est une dizaine d'années, au tout début. Parce que je ne parle pas du mythe de Pocahontas, qui est aussi très intéressant à étudier, parce que plus tard, au XIXe siècle, le Sud va proclamer Pocahontas comme figure fondatrice du Sud par rapport au Nord. Au moment, dans les 10 ans qui vont précéder la guerre de sécession, il va y avoir un renouveau de l'image de Pocahontas. Mais pour revenir au début du XVIIe siècle, Pocahontas joue un rôle important parce qu'elle sert d'intermédiaire, parce que c'est la preuve que les Anglais souhaitent convertir les Amérindiens, puisque la compagnie de Virginie, ce n'est pas Londres qui gouverne la Virginie à l'époque, mais c'est la compagnie, c'est une compagnie marchande, une compagnie mercantile qui le gouverne jusqu'en 1625. Et elle va effectivement utiliser cette princesse indienne pour essayer de trouver une amitié entre les deux peuples, si vous voulez. Mais en 1622, il va y avoir ce qu'on appelle dans l'historiographie européenne, donc il faut mettre les guillemets, mais on n'a pas de source amérindienne, le massacre de 1622, qui est en fait une attaque amérindienne contre les Anglais. Et ça va briser. À partir de ce moment-là, vous allez avoir les guerres anglo-poatanes et les poatanes vont être détruits par les Anglais. Parce qu'entre-temps, les Anglais arrivent en grand nombre. En Nouvelle-Angleterre, vous avez la guerre des Pecos dans les années 1630. Là, si vous voulez, c'est assez complexe parce que vous avez les puritains qui font la guerre à ces Pecos, mais avec leurs alliés amérindiens qui sont les Narragansett. Donc vous avez en fait trois groupes, les Anglais, les Narragansett et les Pecos, et d'autres petites nations aussi, qui se battent pour le contrôle de la région. Donc ce n'est pas une guerre seulement euro-amérindienne, puisque les Narragansett se battent du côté des puritains. Mais ce qui est très intéressant chez du côté des Pecos, c'est comment ils vont survivre. Parce que la tribu va être complètement détruite, ne va subsister que quelques membres, mais plus tard, il va y avoir un renouveau de la nation Péco au XXe siècle. Et si vous allez de nos jours à Mystic, dans le Connecticut, vous pourrez visiter leur casino, leur musée. Et les Péco, maintenant, non seulement il y a eu un renouveau au XXe siècle, mais sont très riches. Et il faut voir ces quarts entiers de retraités américains qui arrivent pour jouer au casino. Mais historiquement, la guerre des Pecos, que montre-t-elle? Elle montre un schéma, elle révèle un schéma qu'on trouve dans beaucoup de colonies, où les Anglais choisissent une nation, soit parce qu'elle est sur la côte, c'est la première qu'ils trouvent, soit parce qu'ils se rendent compte qu'elle est plus armée, qu'elle est plus nombreuse, qu'elle domine la région, ils vont s'en servir comme intermédiaire. Intermédiaire dans ce qu'on appelle le Indian Trade. Indian Trade, dans le commerce avec les Amérindiens, c'est les pelleteries, les peaux, les esclaves. Ça, c'est ce que les Européens prennent. Et ce qu'ils donnent, c'est bien sûr les ustensiles, les marmites notamment, que les marmites de cuivre sont très appréciées des Amérindiens, qui redécoupent et fabrique des bijoux à partir de ces marmites de cuivre. Parce que la chance des Européens, c'est que les Amérindiens préféraient le cuivre à l'or. Comme quoi, tout est relatif. Donc, c'est un schéma qu'on retrouve partout où une nation va être la nation dominante parce qu'elle va avoir les armes à feu fournies par les Européens. Donc, vous avez d'autres guerres. Vous avez la guerre de la pêche, Peach War, qui, en Nouvelle-Néerlande. Donc, chez les Hollandais, c'est pareil. Pour une question de vol de bétail, de terre, il y a tout de suite une guerre entre les Hollandais et les Amérindiens. Il va y avoir la guerre du roi Philippe. Le roi Philippe, c'est un nom que les Anglais ont donné par dérision à un chef amérindien. Ça, c'est plus tard, en 1670. Et enfin, dernier grand conflit, 1715, Caroline du Sud, la guerre des Yamassis. Les Yamassis, comme souvent, c'est une alliance de nations qui ont décidé de s'unir pour rejeter les Anglais. Et en 1715, la cause de ce conflit, c'est le Indian Trade, les abus du Indian Trade, les excès du Indian Trade, c'est-à-dire le fait que les esclaves, que trop d'esclaves étaient capturés. Parce qu'il faut savoir, on parle toujours des esclaves, bien sûr, envoyés d'abord des Antilles et ensuite importés d'Afrique. Ils sont bien sûr les plus nombreux. Mais au début, au XVIIIe siècle, vous avez beaucoup d'Amérindiens qui sont employés comme esclaves dans les plantations de tabac ou de riz, qui travaillent avec les esclaves africains, et où vous avez des esclaves amérindiens, mais là, on a peu de sources, parce que c'était un commerce plus ou moins clandestin, qui sont exportés aux Antilles. Donc, par réaction contre ce trafic d'esclaves, cet esclavage, si vous voulez, ce trafic d'esclaves, il y a, et puis l'occupation du territoire, il y a, parce que bien sûr, c'était des terrains de chasse pour les Amérindiens, il va y avoir cette alliance de nations contre les Européens qui vont, ils vont presque réussir à détruire Charleston, qui est la ville anglaise en Caroline du Sud. Ça, c'est en 1715. Alors, les protestantistes face aux Amérindiens. Comment on essaie de donner un sens à cette diversité? Première chose, il faut garder à l'esprit que pour les Anglais, au départ, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle, les Anglais n'arrivent pas du tout avec une attitude méprisante vis-à-vis des Amérindiens. Bien au contraire, ils les placent au-dessus des Irlandais. Dans tous les textes, on dit « Ah ben oui, ils sont mieux que les Irlandais, ils sont plus civilisés que les Irlandais. » Parce que les Irlandais, au XVIe, XVIIe, c'est tout en bas pour les Anglais. Et, par exemple, Smith, qui est un des premiers à décrire les Powhatan en Virginie, il va appeler Powhatan un empereur. Il va employer le terme empereur. Il ne peut pas dire roi parce que roi, c'est l'Angleterre. Donc, il dit empereur parce qu'empereur, ça fait exotique. Mais seulement, il va s'étonner qu'il soit nu. Donc, il y a tous ces textes où il explique que c'est un empereur. Il a des diplomates, des conseillers, etc. Il a une belle cour, mais il est nu. Et effectivement, la nudité, ce n'est pas un signe de civilisation pour les Européens à l'époque. Donc, une idée un peu ambiguë. D'ailleurs, au-dessous, la couleur. Au XVIIe siècle, on ne les décrit pas comme rouges. Ça, c'est quelque chose qui va venir au milieu du XVIIIe siècle, où les Indiens vont devenir rouges. Au XVIe, au XVIIe siècle, on dit qu'ils ont le teint olivâtre. Ou alors, on dit qu'ils sont, comme, ils sont blancs. Donc, les Anglais, dès le début, placent la conversion des Amérindiens dans une moindre mesure des Africains, comme un objectif. Il y a la conquête, certes, le peuplement, mais aussi la conversion. Ça, c'est très important, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont échoué qu'il faut penser qu'ils n'ont jamais souhaité y arriver, qu'ils ne se sont jamais donné les moyens. Alors, j'ai parlé de Pocahontas, bon, c'est un bon exemple, mais chez les Puritains, vous avez ce qu'on appelle les « praying towns », donc les villes de prière, ou villages de prière, qui sont des villages avec des Amérindiens et un pasteur, et c'est des Amérindiens convertis. Ça, c'est en Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est les Puritains. Donc, il faut se défaire de ce cliché disant que les Puritains ont repoussé les Amérindiens. Non, jusqu'en 1640, 1650, ils essayent d'avoir des villages de convertis. Ça fait un peu penser, si vous voulez, aux réductions, ce qu'on appelle les réductions en Amérique latine, notamment au Paraguay. Donc, le discours officiel est sincère, ambitieux, mais il se heurte à la réalité qui est le peuplement massif sur place et le besoin de terre. Donc, on va repousser les Amérindiens vers l'ouest. Comme je vous disais, les Quakers, ils sont pacifistes. Donc, ils ne font pas la guerre aux Amérindiens. Ils ne font la guerre à personne, d'ailleurs. Les frères Moraves sont allemands. Les frères Moraves, ils vont construire des missions un peu partout en Pennsylvanie, en Caroline du Sud, et ils vont avoir beaucoup de succès. C'est un peu méconnu, hein, parce que c'est les Allemands, donc ce n'est pas l'histoire britannique, donc c'est même peu traité par les historiens américains, mais ils vont avoir, au milieu du XVIIIe siècle, ils vont avoir de grands... Ils sont très actifs dans la conversion des Amérindiens. Et enfin, il faut parler de la SPG, ce qu'on appelle la SPG en anglais, Society for the Propagation of the Gospel, hein, la société pour la propagation de la foi. La SPG est une société anglicane qui vit de dons des prélats, des aristocrates, qui est basée à Londres. Elle a une sœur jumelle qui est la SPCK, Society for the Propagation of Christian Knowledge, qui est la SPCK, si vous voulez, c'est pour tout ce qui est l'instruction. Ils envoient des livres, des bibliothécaires, ils font des bibliothèques. Ils sont très actifs en Angleterre, surtout en Angleterre. Alors que la SPG, ils envoient des pasteurs, mais ils sont actifs qu'en dehors de l'Angleterre. L'idée au départ, c'est de convertir les Amérindiens et les Africains américains, enfin les esclaves. Mais, petit à petit, l'objectif va changer et l'objectif va être combattre la dissidence. Combattre les dissidents, c'est-à-dire restaurer le rayonnement de l'Église anglicane ou plutôt imposer le rayonnement que l'Église anglicane devrait avoir dans des colonies britanniques. Et leurs ennemis, ce sont, comme toujours, les Quakers. Parce que quand vous lisez les récits, les sermons des pasteurs de la SPG dans le début du XVIIIe siècle, c'est toujours, pour eux, c'est incompréhensible qu'une colonie soit aux mains de dissidents. Donc, la politique de conversion est un échec, certes. Parce qu'il y a un trop grand écart entre l'ambition du discours et la pratique. Aussi parce que les pasteurs protestants des colonies sont mariés, ne veulent pas vivre, ne sont pas des missionnaires, ils ne veulent pas vivre chez les Indiens. Donc ils essayent de convertir les Indiens de leur paroisse. Et ça ne marche pas, bien sûr. Ça ne marche qu'avec ce qu'on appelle les Indiens domiciliés, c'est-à-dire les Indiens qui vivent chez les Européens, hein, enfin, dans les communautés européennes. En anglais, on dit « settlement Indians ». Et puis, cette vision ambitieuse, idéaliste, d'amitié entre les peuples va se heurter, bien sûr, à la réalité de la colonisation massive. Et ça, c'est une très grande différence avec l'Amérique française. C'est que l'Amérique française, vous avez 100 000 colons sur toute l'Amérique du Nord, hein, de la vallée du Saint-Laurent au delta du Mississippi. Sur un plus petit territoire, vous avez 2 millions de Britanniques. Donc, forcément, les Français, ils ont besoin... D'abord, ils ne peuvent pas occuper tout le territoire, donc ils ont des postes de traite et des forts disséminés le long de la vallée du Mississippi. Et ils ont besoin, pour survivre, des alliances, de l'alliance amérindienne. Les Anglais ne sont pas du tout dans cette problématique. Ils peuvent survivre, gagner, prospérer sans alliance. Ils ont besoin d'alliances pour lutter contre les Français. Ils ont besoin, bien sûr, du commerce de pelleterie, du commerce du pot de daim, etc. Donc, ils ont besoin des Amérindiens, mais pas pour leur survie. Donc, pour terminer, pour conclure, je dirais que dans un premier temps, les relations amérindiennes, pour simplifier, dans un premier temps, vous avez la découverte mutuelle, l'idéal, l'ambition de la conversion, parce que c'est des petites nations sur la côte, gérables pour les Anglais. Puis, vous avez une deuxième période à partir, disons, bon, ça dépend d'une colonie à l'autre, mais disons milieu du XVIIe, pour simplifier, où c'est une période de conflit, comme on a vu, qui va durer un siècle, jusqu'aux années 1720. Et après, au début du XVIIIe, vous avez une période qu'on pourrait appeler de diplomatique, où là, les Anglais vont se heurter aux grandes nations, Iroquois, Cherokee, Creeks, Choctaws, Chickasaw, toutes ces grandes nations de l'intérieur, et ils vont vouloir négocier avec elles. Ils vont envoyer des ambassades. Il va y avoir une ambassade iroquoise, une ambassade Creek, une ambassade Cherokee, qui vont aller à Londres. Donc, c'est la période de diplomatie qui va mener à quoi ? Elle va mener aux alliances, cette fois-ci nécessaires pour vaincre les Français. C'est la guerre de 7 ans, en 1754. Bon, en Europe, elle commence en 57, hein, 57-63, ça fait 7 ans. Bon, en Amérique, on l'appelle la guerre de 7 ans, bien qu'elle dure 9 ans, elle commence en 54. Avec Washington, qui est officier de la milice Virginie, et c'est là qu'il va faire ça. Il va se faire connaître des autres colonies grâce à la guerre de 7 ans. Conflit décisif en Amérique du Nord, puisque les Anglais vont, les Français vont être défaits et vont institutionnellement partir, même si beaucoup de colons vont rester. Mais, très important dans l'histoire anglo-amérindienne, parce que vous allez avoir des alliances avec les Amérindiennes, avec les tribus amérindiennes, des alliances militaires, diplomatiques, qui vont permettre à la... ce qui est symptomatique, c'est que la guerre de 7 ans en Amérique s'appelle « The French and Indian War ». Justement, où les Anglais combattent les Français et les Amérindiens. Et tout dernier point, toute cette politique va culminer avec quoi ? Elle va culminer avec ce qu'on appelle la Proclamation Line, la ligne de proclamation, si vous voulez, de 1763, où les Anglais, une fois que les Français ont été défaits, vont imaginer une ligne qui suit la crête des Appalaches, et les colons américains ne pourront pas s'établir au-delà. Parce que quel est l'objectif des Anglais ou des Britanniques, ou quel est l'objectif de Londres ? Londres veut se garder ce qu'ils appellent le pays indien, un Indian country, le pays indien, pour le commerce, mais aussi pour protéger, pour créer une zone, en fait, une zone où les Américains ne pourront pas s'installer, parce que aussi, ce qui est très intéressant de nos jours, à voir de nos jours, sans aucun anachronisme, c'est que déjà à l'époque, les officiels de Londres craignent la puissance américaine d'une certaine manière. Enfin, j'exagère avec le terme puissance, mais ils ont peur que le centre de gravité du monde anglophone traverse l'Atlantique. Ces colonies qui ont 2 millions de personnes, c'est-à-dire la moitié de la population anglaise en simplement un siècle, leur fait peur. Et d'ailleurs, ils commencent à avoir des lois. Pour la première fois de l'histoire anglo-américaine, il y a des lois en Angleterre pour freiner la migration. Il y a des projets de loi pour interdire la migration vers l'Amérique. Donc, on essaye de les limiter à la côte, en fait. Cette mesure va créer, bien sûr, on imagine, le courroux des Américains, surtout qu'il y a déjà des Américains qui sont dans le Kentucky ou le Tennessee, donc il faudrait qu'ils reviennent en arrière, donc c'est bien sûr impensable. C'est une mesure inapplicable qui d'ailleurs ne sera pas appliquée. Mais je termine là-dessus parce que 1763, c'est vu comme le début de la crise institutionnelle avec Londres qui va mener à la Révolution, puis à l'indépendance. Voilà. Je vous remercie.
Bien, alors merci pour cet exposé, pour cette présentation de cette Amérique peu connue, de l'Amérique aux origines des États-Unis. Vous avez bien montré comment cette Amérique, justement, est diverse, complexe et diverse, et finalement, comment aussi, dans ses relations avec les Indiens, elle a été aussi diverse, et comment cet idéal de conversion s'est heurté, au fond, à la réalité du terrain. Et qu'elle a été mise en oubli, sauf peut-être avec le réveil, mais peut-être on va en reparler. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Moi, j'en aurais une justement sur cette question du réveil, mais on y reviendra après. Peut-être déjà, y a-t-il des interventions et des questions dans le public ? On a 15 minutes, donc n'hésitez pas.
Oui. Si je comprends bien, l'idéal protestant s'est heurté à l'appropriation des terres et aux besoins d'appropriation des terres. Vous pouvez nous expliquer un peu mieux cette appropriation des terres ?
Alors, oui. Encore une fois, c'est difficile de donner une réponse simple parce que dans certaines colonies, on prenait la terre, tout simplement, comme en Virginie. Alors que dans d'autres colonies, on essaye quand même de signer des traités avec les Amérindiens, de leur acheter leurs terres. Alors, bien sûr, le terme acheter, la notion d'acheter n'avait pas de sens pour les Amérindiens, hein, mais il en avait pour les Européens, et c'était eux qui lançaient l'initiative. On dit d'ailleurs de manière très folklorique aux États-Unis, vous l'avez sans doute entendu dire, que Manhattan, l'achat de Manhattan par les Hollandais pour 25 guilders, même si c'est une assez grosse somme pour l'époque, c'est la meilleure affaire immobilière de l'histoire des États-Unis. Ça, c'est ce qu'on dit de nos jours. Ça fait sourire, mais c'est assez amusant. Et les Quakers, par exemple, mais ils ne sont pas les seuls, mais les Quakers, ils essayaient justement d'acheter la terre. William Penn avait donné comme instruction, on ne peut pas s'installer tant qu'on n'achète pas la terre. Mais je voudrais revenir comme ça, en guise d'exemple tout à fait méconnu, parce que j'ai trouvé dans les archives, et je ne l'ai jamais revu dans les livres, c'est que quand les seigneurs propriétaires de Caroline du Sud, donc on est tout à fait au sud, et ce n'est pas du tout une fondation liée à la religion, parce que c'est simplement pour le commerce. Le commerce des pots de daim, et puis plus tard le riz. Eh bien, dans ce qu'on publiait à l'époque, qui était des imprimés de propagande, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est un aspect très intéressant de l'histoire d'Amérique anglaise, c'est qu'on publiait en Europe, pas seulement en Angleterre, mais en Europe, notamment aux Pays-Bas, dans plusieurs langues, en français, en allemand, en hollandais, en anglais, des imprimés de propagande qui faisaient de la publicité pour l'Amérique, pour parler simple. Et dans un de ces imprimés de propagande publiés pour la Caroline du Sud, il y a une espèce de faux question-réponse, hein, où il y a un colon qui pose des questions à un capitaine. Et on lui dit, comment vous avez obtenu la terre? Et la réponse est, nous avons acheté la terre aux Amérindiens. Donc, ça date de 1685. Donc, il y a, je trouve ça très intéressant parce que les propriétaires de Caroline ne sont pas du tout Quaker, pas du tout pacifistes, mais ils ont quand même ce souci au moins de montrer ou de faire croire, bon, ça chacun décidera, aux colons potentiels qu'il y a une légitimité qui n'est pas simplement de puissance, hein, à obtenir la terre. Mais si vous voulez, pour revenir à votre question, bien sûr, il va y avoir des... Tous les cas se sont produits. C'est-à-dire que vous avez eu des traités qui ont été respectés. Vous avez eu des terres qui ont été prises sans traité. Vous avez eu des traités qui n'ont pas été respectés. Vous avez eu des terres conquises par la guerre. Vous avez eu des squatters aussi. Parce que je n'en ai pas parlé, mais effectivement, vous avez beaucoup de colons anglais qu'on appelle des squatters, c'est-à-dire qu'ils ont un titre de terre, mais qui doit être normalement... La terre doit être... Le processus, si vous voulez, c'est que vous arrivez dans une colonie, on vous donne un titre de terre. Vous devez aller voir l'arpenteur de la colonie qui va vous borner, comme on disait, borner la propriété, la dessiner. C'est des documents d'ailleurs magnifiques. Et puis ensuite, vous aurez un titre définitif de terre. Mais ça, une minorité de colons fait ça. La plupart des colons, ils ont juste leur titre de terre qu'on leur donne en arrivant. Et ils vont s'installer et puis voilà, c'est tout. Ils ne font même pas les limites du territoire, ils ne vont pas avoir d'arpenteur parce que ça coûte cher. Et puis il n'y a qu'un seul un ou deux arpenteurs par colonie. Je vous parle du 17e, hein, du tout début. Donc ça, c'est des squatteurs, donc ils vont s'installer sur des terres amérindiennes. Alors après, il y a des massacres par des Amérindiens, mais bien sûr, c'est des colons qui se sont installés sur des territoires de chasse, donc forcément, ça peut créer la colère de nations sur place. Mais il faut toujours garder à l'esprit, je ne l'ai pas assez souligné, mais il faut toujours garder à l'esprit l'extrême, mais alors là, c'est encore pire que pour les Européens, l'extrême diversité des nations amérindiennes. Il y a plus de 400 nations différentes sur le territoire des États-Unis, hein, pas juste sur la côte Est, quand les Européens arrivent. Et dans chaque région, vous avez parfois des toutes petites nations de un ou deux villages. Donc en fait, là où vous allez vous installer, ça va dépendre qui contrôle le territoire et s'ils sont puissants, pas puissants. Donc ça va être plus ou moins facile de leur prendre les terres. Mais je pense, on peut voir effectivement le rouleau compresseur anglais, mais pas contrôlé à partir de Londres. C'est plus sur place et avec d'énormes variantes locales.
Est-ce que ce rouleau compresseur anglais, il est moins fort au XVIIe et XVIIIe siècle, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a la question géographique, justement, l'espace américain, l'Amérique du Nord... eh bien, est vaste. Et donc, les Indiens sont repoussés, mais peuvent aller s'installer beaucoup plus à l'ouest. Ou est-ce qu'au contraire, au XIXe siècle, seconde moitié du XIXe siècle, la frontière est sans cesse repoussée, et du coup, le rouleau compresseur, avançant vers l'ouest, ne laisse plus la possibilité aux Indiens d'aller s'installer ailleurs et radicalise, au fond, le conflit latent depuis des siècles déjà avec les nations amérindiennes. Est-ce qu'on peut dire que ici, la géographie explique l'augmentation de la violence et de l'intensité de l'opposition entre les Amérindiens et les Anglais?
Tout à fait, dans le sens où c'est deux facteurs. Effectivement, comme vous dites, l'espace aussi permet une certaine paix entre Européens. Parce que si Roger Williams quitte le Massachusetts pour fonder le Rhode Island, c'est parce que justement il y a de la place pour le faire. Sinon, il aurait été emprisonné ou banni, renvoyé en Angleterre. Et dans les relations amérindiennes, effectivement, l'espace, c'est un paramètre important, puisqu'au 19e siècle, dans les années 1830, les Américains vont déporter toutes les tribus du sud-est, notamment les Cherokees, et vont les envoyer en Oklahoma. C'est ce qu'on appelle la piste des larmes. Des milliers de Cherokees vont mourir dans ce voyage. Mais ça m'amène au deuxième paramètre. Donc justement, le gouvernement américain utilise cet espace pour repousser littéralement le problème amérindien, enfin ce qu'ils perçoivent comme le problème amérindien. Mais l'autre paramètre, justement, c'est qu'à partir de, disons, à partir de 1800, vous avez l'État fédéral, l'État américain. Ça, vous n'avez pas ça, bien sûr, avant. C'est une des grandes différences entre les deux périodes. C'est que Londres est très loin, n'a pas autre que les espoirs de conversion, n'a pas vraiment de politique amérindienne, sauf à la fin du XVIIIe, quand ils ont besoin d'alliances pour combattre les Français. Mais ils vont... Londres, alors que le gouvernement fédéral, à partir de 1800, va avoir une politique amérindienne et va avoir les moyens de cette politique. Donc, effectivement, comme vous dites, à la fin du XIXe siècle, il y a eu la guerre de sécession. Donc, c'est le Nord qui l'emporte. Le Nord, c'est l'industrialisation, le chemin de fer, les fermiers, le peuplement vers l'Ouest. À un moment donné, ils vont se retrouver... L'espace ne va plus suffire, effectivement. Donc, on va repousser les Amérindiens vers le Nord, c'est-à-dire Dakota, Montana, Wyoming, ou vers le Sud, Arizona, des territoires qui sont considérés comme inhospitaliers par les euros, ce qu'on dit. En histoire amérindienne, on qualifie les Américains d'euro-américains. Alors, il faut attendre le début du XXe siècle, 1924. Très longtemps après, il y a un acte de citoyenneté. À l'époque, elle est imposée par le gouvernement fédéral. C'est très complexe parce que la Cour suprême des États-Unis va être amenée à prendre des décisions dès les années 1830 sur le statut des Amérindiens. Alors, par moment, ça va être une nation étrangère. Ensuite, ça va être une nation étrangère dépendante. Enfin, il va y avoir plusieurs statuts donc décidés par la Cour suprême. Mais pas individuellement, mais les nations amérindiennes. Mais pour avoir une identité amérindienne qui leur est propre et qui est à la fois américaine, il faut attendre les années 1960. Où là, effectivement, vous avez le mouvement à Alcatraz, mais vous avez aussi le mouvement à Wounded Knee. Wounded Knee, c'est une bataille de 1890. Et dans les années 1970, des activistes, comme on dit, des activistes amérindiens, vont occuper le terrain. Et ils vont revendiquer une différence amérindienne au sein des États-Unis. Et ça, c'est nouveau, et donc il faut attendre les années 60, en fait. C'est un peu la lutte des droits civiques, mais on parle toujours des Afro-Américains, mais il y a aussi les Amérindiens. Donc c'est assez très tardif.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas été dans l'armée pour la Première Guerre
mondiale ? Alors, c'est là où c'est compliqué, parce que oui, il y avait à titre individuel, il y a des Amérindiens qui sont engagés dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale, tout à fait, mais qui ont combattu en France.
Et
Exact. C'est un beau sujet de recherche d'ailleurs. Et puis on les a utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est assez connu parce que Hollywood s'est penché sur la question, mais il y a eu ces codes Navarros qui ont été utilisés parce que les Américains pensaient que les Japonais pourraient jamais deviner, jamais les décoder. Quoi. Donc ils ont été aussi actifs pendant la Deuxième Guerre mondiale.
D'autres questions ? Oui ?
Est-ce que la prédication de l'Église a justifié cette politique ? Comment la prédication s'articulait ?
Au 18e ? Moi, je prends
au départ. Là.
Au départ. Alors,
18e.
Oui. Alors,
même a posteriori, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Alors, au 17e, alors, reprenons plus le début. Au 17e, les pasteurs de Virginie, qui sont donc anglicans, prêchent pour la conversion. D'ailleurs, il y a un pasteur, le pasteur de Jamestown, il convertit Pocahontas et il marie Pocahontas avec Rolf, John Rolf. J'en ai pas parlé, mais aussi les Anglais avaient espoir de fonder un collège pour les Amérindiens, mais ça n'a pas eu lieu parce que c'était quelques années avant le, entre guillemets, massacre de 1622, qui a mis fin à tout ça. Ensuite, l'ASPG, quand l'ASPG était assez active, donc dans la première moitié du XVIIIe siècle, chaque année, vous aviez un sermon. C'est-à-dire, chaque année, vous aviez un prélat de l'Église anglicane qui faisait un sermon sur l'ASPG, sur la situation en Amérique et tout. Et donc là, c'était toujours... Ce qui était justifié, c'était bien sûr la politique de conversion, et on parlait peu des échecs de ces GSEC ou des guerres. Alors, vous me direz, au 19e siècle, les pasteurs du 19e siècle étaient très actifs dans ce qu'ils appelaient l'anglo-saxonisme. Il y avait un pasteur qui s'appelait Josiah Strong, qui a écrit un livre en 1885 qui s'appelle Our Country, notre pays, où il défend l'anglo-saxonisme. Et l'anglo-saxonisme, pour lui, c'est que les anglo-saxons sont une race, entre guillemets, qui doit dominer le monde. Donc là, les pasteurs sont vraiment impliqués dans l'impérialisme. Là, je vous parle aussi, ce n'est pas seulement les Mexicains, les Amérindiens, les Afro-Américains aux États-Unis, sur le territoire américain, mais c'est aussi les Philippins, puisque à ce moment-là, enfin un peu plus tard, les Américains vont coloniser les Philippines. À partir de 1898, puis Porto Rico, Cuba, etc. Donc là, les pasteurs sont, vous me direz, pas tous bien sûr, mais en tout cas les pasteurs les plus connus soutiennent la politique du gouvernement vis-à-vis des minorités. Alors après, bon, bien sûr, si on revient à la période la plus contemporaine, vous avez tout, bien sûr... une vision tout à fait différente. Et alors, ensuite, bon, je n'ai pas parlé des Mormons. Bon, les Mormons sont aussi très intéressants parce que c'est une des rares églises qui est née aux États-Unis. Et les Mormons sont, justement, on parlait de l'espace. Les Mormons apparaissent dans les années 1840 et c'est parce qu'il y a l'Ouest qui s'ouvre qu'ils peuvent survivre et prospérer parce que sinon, ils étaient emprisonnés, persécutés dans l'État du Missouri ou Indiana où ils étaient avant de partir pour l'Utah. Bon, ben, les Mormons... ont une politique pacifiste de conversion vis-à-vis des Amérindiens. Donc, encore une fois, c'est très... Ça dépend véritablement de l'Église et des personnes en place localement. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que vous ne trouverez pas de personnes qui donnent un avis global, qui soit unanime sur la politique américaine vis-à-vis des minorités à cette époque. Vous ne trouverez pas parce que vous avez... ça dépendra de s'il est plus ou moins proche du gouvernement fédéral, s'il défend un projet idéologique, etc. Et aussi les croyances de sa propre religion. Donner un dernier exemple qui est tout à fait étonnant. Ça, cette fois-ci, c'est pour vis-à-vis des esclaves. En 1710, en Caroline du Sud, il y a une loi qui fait partie du Code noir qui prévoit la castration pour la troisième tentative de fuite. Et on a retrouvé dans les archives, donc en 1712, donc au tout début du XVIIIe siècle, une lettre de Baptiste en Caroline du Sud qui demande conseil à Londres, à l'église baptiste de Londres. Conseil sur quoi ? Conseil sur le fait qu'un des membres de leur communauté a castré son esclave, et ils veulent savoir s'ils doivent l'exclure de la communauté ou pas. Et Londres explique, essayez plutôt de le raisonner, etc. Et parce qu'ils sont, à Londres, ils sont très loin des réalités de la violence. J'en ai pas parlé, mais l'Amérique est une terre de violence au XVIIe, XVIIIe. Mais c'est pour vous dire, voyez, c'est intéressant de voir qu'il y a un groupe, il s'est passé une chose dans la communauté, la loi dit ceci, mais personne n'applique la loi, il y a une personne qui a appliqué la loi, qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont vraiment dans l'embarras vis-à-vis de la façon dont il faut traiter ce membre de la communauté qui a commis quelque chose qui est considéré comme inhumain par les autres membres de l'Église. Mais vous voyez, c'est une lettre trouvée comme ça par hasard, parce que souvent, comme vous savez, on trouve des documents très intéressants par hasard en cherchant autre chose. Donc c'est un exemple que l'on a.
On ne voit pas le développement d'une littérature au XVIIe, XVIIIe siècle médiatisée, comme d'autres choses sont médiatisées, comme par exemple l'expropriation des terres, là vous l'avez décrit avec ses affichettes et ainsi de suite. On voit pas une littérature qui se développe au XVIIe et XVIIIe siècle vraiment contre ces guerres amérindiennes et qui insiste sur l'évangélisation des Amérindiens, une forme de théorisation au fond de cette pensée.
Non. À l'inverse, on trouve des écrits pour dissuader les Européens de partir en Amérique. Et là, ils utilisent les guerres amérindiennes comme signe de violence, comme preuve de violence. Il ne faut pas partir en Amérique parce qu'il y a l'esclavage, parce qu'il y a les Amérindiens, parce qu'il y a une violence inhérente, il y a la violence du climat, les épidémies, etc. Et là, justement, donc, on ne condamne pas les guerres amérindiennes d'un point de vue moral. Bon, ça sera plus tard avec l'esclavage, mais il faut attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec des gens comme Benezet et d'autres. Mais on a une certaine incompréhension vis-à-vis de cette violence quotidienne, enfin, qu'on perçoit comme quotidienne en Amérique. Donc là, effectivement, on va regretter ces conflits. D'ailleurs, dans les imprimés de propagande dont je vous ai parlé, quand vous avez ces fausses questions-réponses, c'est bien sûr, on imagine les questions que pourraient avoir les colons. Et donc, une question qui apparaît toujours, c'est « et les Amérindiens ?» Ou les on les appelait les naturels américains. C'est comme ça qu'on les appelle au XVIIe. Parce qu'il faut attendre la Révolution pour que le mot américain veuille dire blanc. Est-ce que les naturels américains sont dangereux ? Donc on voit les guerres amérindiennes, non pas d'un point de vue moral, on les regrette pas dans ce sens-là, mais on les regrette parce que ça fait peur.
Bertrand Van Rombeck, merci beaucoup pour ces éclairages.
Merci à vous.
Cette découverte de ce monde donc avant les États-Unis. Je vous invite à découvrir l'ouvrage de Bertrand Van Rombeck, donc l'Amérique avant les États-Unis, qui se lit comme une épopée. Ça permet vraiment de rentrer dans ce monde et dans une terre quasi inconnue. Ça se lit très bien. C'est une langue dynamique qui emporte d'une page à l'autre. Je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est complètement ignoré dans notre culture. Et pour découvrir les racines des États-Unis, c'est très intéressant. On y découvre notamment que la devise « Dieu bénisse l'Amérique » n'a rien de la devise d'origine des États-Unis et qu'elle est tout autre. C'est une et pluriel, il me semble.
C'est ça.
Voilà. Donc,
Merci.
Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Je précise que notre cycle continuera avec une conférence de Céline Borello, qui est professeur d'histoire moderne à l'Université d'Alsace et qui viendra nous parler, ça rejoint une question de M. Coste, qui viendra nous parler donc des prédications des pasteurs protestants, comment les pasteurs protestants ont tenté d'articuler l'impératif de paix décrit dans l'Évangile avec les réalités de la guerre entre 1750 et 1815, donc à la fin du XVIIIe siècle, au moment, si vous voulez, où se développe un autre appel à la tolérance, avec la philosophie des Lumières. Et en même temps, 1815, hein, c'est le premier empire en Europe. Et donc, ce sont aussi des guerres extrêmement meurtrières. Donc, comment les pasteurs vont tenter d'articuler hein, toute cette réalité, le développement de la philosophie des Lumières, l'impératif de l'Évangile et en même temps la confrontation avec le terrain, avec les guerres qui sévissent en Europe. Merci à tous et merci à vous, M. Van Rombeek.
Merci.
Et merci à vous d'être venus, bien sûr, et bon retour et bonne fin de soirée à tous.